Bonjour, je m'appelle Hélène Rouquette-Valens et je suis journaliste à Sud-Ouest. Et Monsieur Naouri est donc venu vous parler de son livre. Comme je l'ai interviewé, je vais dialoguer avec lui. Alors, j'avais intitulé votre interview « Éduquer, pas séduire ».
Oui.
Est-ce que c'est ça, surtout, votre façon de conseiller l'éducation des enfants ? Surtout ne pas séduire, mais éduquer comme elle a fait votre mère avec vous.
Oui, éduquer, c'est... Il y a tout un livre consacré à la question. Éduquer, c'est conférer à quelqu'un des qualités telles qu'en définitive, on pourrait en faire un chef. C'est ça l'étymologie du terme. Donc, c'est conférer des qualités. Conférer des qualités, c'est donner du matériel solide, qui est d'ailleurs transmissible. Séduire, c'est tromper. C'est par avance présenter des breloques en disant que c'est... Vous savez, quand les Européens allaient voir les Africains et les Indiens, ils leur apportaient de la verroterie. C'est un travail de séduction. Ça ne vaut rien. Mais ça donne comme ça l'impression. Et s'éduquer, c'est obtenir à faible prix le résultat qu'on veut en se fichant éperdument de la personne que l'on séduit. Séduire, c'est d'abord et avant tout préserver la satisfaction que l'on a soi-même et l'objectif que l'on poursuit. Éduquer, c'est beaucoup plus dur, parce que éduquer, c'est devoir précisément bloquer le plaisir que l'individu que l'on éduque attend de la vie. Et c'est faire différer l'obtention de ce plaisir, ce qui va faire réagir cet individu, donc l'enfant, dans des mouvements de haine.
Oui,
je t'aime pas, les enfants. Je t'aime pas. Vous savez, quand on leur donne...
Quand on leur donne pas ce qu'ils veulent.
Quand on leur donne pas ce qu'ils veulent. Alors évidemment... Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus complexe, dans la mesure, si vous voulez, où le flot d'informations est tellement énorme, et ça va à une telle vitesse, et le temps est maintenant réduit à si peu de choses, qu'en définitive, on ne sait plus où on en est. Et on a le sentiment comme ça, plus ça grandit, plus la communication est dite importante, et plus on est dans la solitude. Et donc, quand on est dans la solitude, on a l'impression comme ça qu'on est privé de l'ingrédient majeur que l'on cherche à avoir, qui est un brin d'amour. Pour avoir un brin d'amour, encore faut-il se poser et trouver quelqu'un qui vous le donne. Et comme on n'en a pas, on cherche à le prendre là où on peut. Donc, on a le sentiment comme ça que lorsque... Justement, on renonce à éduquer que l'on séduit d'un seul coup le petit enfant qui vous dit, qui vous tombe dans les bras et qui vous fait un grand sourire et qui rigole. Ah, c'est toujours bon à prendre, c'est une bouffée d'oxygène, mais c'est lui qui paye. C'est lui qui va payer. Il faut savoir un petit peu ce qui va se passer. Un enfant, ça n'est pas un stade figé, c'est un individu qui va grandir, qui va devenir lui aussi un être adulte, un être social. Et c'est pour ça que c'est tellement différent. Et c'est pour ça aussi qu'il est fondamental d'opposer les deux attitudes et de dénoncer la séduction en disant que c'est terriblement dangereux.
De toute façon, vous expliquez, de toute façon, vos enfants vous aimeront et vous haïront.
Oui. Vous êtes,
les deux.
Vous êtes condamné.
Vous êtes condamné, oui.
Vous êtes condamné à être aimé et à être haï. Donc, ce n'est pas la peine de faire des efforts. Faites comme vous l'entendez, comme vous le devez. De toutes les façons... Même si vous faites les choses de la façon la plus séductrice qui soit, vous serez haï. C'est nécessaire, puisque de toutes les façons, la haine, c'est comme l'avers et l'envers d'une médaille, la haine et l'amour. Et l'enfant est condamné à vous aimer parce que c'est avec cet amour qu'il va construire son identité. Et puis lui condamné à vous haïr, parce que si jamais précisément il n'était pas capable de développer un brin de haine, il ne pourrait jamais se détacher de vous. Donc, c'est le sort de tout un chacun.
Ce que vous dites, c'est frustrer votre enfant pour en faire un homme ou une femme.
Si vous me faites dire ce genre de choses comme ça, ça ne peut éventuellement qu'être choquant.
Comment le définiez-vous?
Je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela. Je pars du principe que il faut comprendre un petit peu comment les choses se passent. Le bébé qui vient aujourd'hui au monde est strictement le même bébé que celui qui est venu au monde au début de l'espèce il y a 8 millions d'années. Il y a 8 millions d'années, l'environnement était un environnement particulièrement hostile. Donc, si vous voulez, la nature avait paré ce bébé d'un certain nombre de pulsions, d'une violence et d'une intensité considérable, d'une énergie considérable, et ces pulsions lui étaient nécessaires pour survivre dans ce monde hostile. Ces pulsions, c'était tout un mécanisme auto-centré, c'est-à-dire centré pour lui, sur lui-même, et destiné à lui permettre de se conserver, de pouvoir lutter contre l'hostilité. Mais ce bébé d'aujourd'hui, il est dans un environnement particulièrement protecteur et particulièrement intéressé à lui. Non seulement on ne lui demande pas de tenter de se conserver lui-même, mais on fait tout ce qu'il faut pour justement le conserver, lui apporter toutes les protections. Du coup, ce matériel pulsionnel, il est totalement inutile. Il n'est pas seulement inutile, il devient dangereux. Et il fera de cet enfant, si ce matériel est conservé, il fera de cet enfant un individu invivable. Donc il est fondamental de bloquer ses pulsions. Et quand on bloque les pulsions d'un enfant, on le frustre. Donc ce n'est pas le conseil frustré, etc. On dit l'éducation, ça passe par la frustration. Et c'est pour ça, voilà l'explication. Si on n'a pas d'explication sous-jacente, on a le sentiment que c'est une idéologie. Alors moi, je ne suis pas là dans l'idéologie. Je veux dire que je ne suis pas, excusez-moi du peu, mais je ne suis pas autant de Rousseau, par exemple, qui écrivait l'Émile parce que son rapport à la nature et son rapport à la poésie, son rapport, lui-même, ce qu'il avait, etc., lui faisait penser que c'était comme ça. Moi, je ne suis pas en train de dire « je pense que c'est comme ça ». Je dis, voyons ce qu'il en est de tangible, de vérifiable, de scientifique, et tirons les conclusions. Et donc, en examinant les faits de la façon la plus rigoureuse, si vous voulez, j'en arrive à expliquer à chacun qu'il est fondamental de pouvoir éventuellement mettre des limites. Vous comprenez ? Et de ce côté-là, c'est extrêmement clair. Alors vous me direz, mais c'est quoi les limites ? Bah, les limites, c'est... Chacun les définit comme il l'entend. Je veux dire que passer le temps de la dyade, c'est-à-dire de cette sorte de période dans laquelle une mère et un enfant sont dans ce tête-à-tête extraordinaire où ils se parlent sans mots et où ils communiquent avec une très grande intensité et où ils sont à la disposition totale l'un de l'autre, et ça ne dure pas 50 ans, ça dure 2-3 mois. Passer cette période-là, il faut faire en sorte qu'une vie soit réglée et que ce petit enfant se débrouille pour se rendre compte qu'il n'est pas seul au monde et qu'il y a d'autres personnes que lui. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on est dans la frustration. Et la frustration majeure, celle qui fait le lit de toutes les autres frustrations et qui va permettre justement à l'enfant de les recevoir, parce que celle-là lui vient directement, c'est quand justement le couple parental se reforme et que la mère dit à l'enfant « Je suis ta mère, mais je suis aussi la femme de cet homme. Et cet homme me confisque à toi et je ne suis pas à 100% pour toi. »
Donc c'est le père qui intervient,
enfin, c'est le père dans la mesure, si vous voulez, où dans la dyade mère-enfant, il y a ce tiers qui vient et qui, justement, fait en quelque sorte qu'il prend sa part. Il prend sa part, mais il la prend lui directement et pas en passant par l'enfant.
Donc, ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est que actuellement, on n'est pas très bien. Les parents savent pas très bien comment faire. Ils fabriquent des enfants qui les rendent esclaves plutôt que de fabriquer des petits qui sauront se débrouiller tout seuls. Ils fabriquent des enfants qui sans arrêt réclameront quelque chose.
Mais excusez-moi, détrompez-moi. Est-ce que nous parlons d'un livre qui s'appelle « Éduquer ses enfants à l'urgence aujourd'hui » ou est-ce que nous parlons de cet ouvrage ?
De prendre la vie à pleine main.
Bon, mais... alors, dans ce cas-là, si vous le permettez, je dirais que ce livre n'est pas construit seulement autour de l'éducation des enfants. Il est C'est un ouvrage qui m'a été commandé, c'est-à-dire qu'on est venu me voir en disant « Nous aimerions bien savoir comment vous êtes arrivé à construire l'œuvre que vous avez construite, quelle a été votre vie, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous êtes débrouillé pour aller intervenir, dans, etc. etc. » Et j'ai accepté, si vous voulez, ce projet, et j'ai répondu aux questions de la journaliste qui avait été désignée pour mener à bien ce projet. Donc il y a, si vous voulez, c'est un peu, c'est pas dans le désordre, c'est dans le fait d'association d'idées, parce que par exemple, on n'a pas pris comme point de départ. Bon, alors dites-nous, vous êtes qui, quand est-ce que vous êtes? Non, on est parti de, vous faites un drôle de métier. Et vous le faites de façon singulière. Alors expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là. Donc, je raconte comment, tout jeune, je suis rentré en collision avec un cas qui m'a beaucoup enseigné. Et qu'à partir de cet enseignement, dans la mesure... Vous savez, moi j'avais eu un professeur, un immense bonhomme, peut-être les personnes les plus âgées ici ont entendu parler, qui s'appelait Pierre Aboulker. Pierre Aboulker avait été rendu célèbre par le fait que c'était lui qui avait opéré le général de Gaulle. Vous voyez, à l'époque, c'est il y a très longtemps. Et Pierre Aboulker ne cessait pas de nous dire « Nos succès ne nous enseignent rien. Il n'y a que nos échecs qui nous enseignent. » Et c'est un très beau message. C'est-à-dire, bon, on ne reste pas sur un échec. Vous voyez, c'est toujours aussi, là, une façon de prendre la vie à pleine main. Et si vous voulez, le fait de rentrer en collision avec ce cas au départ a produit, a été pour moi, j'ai frôlé l'échec. Et ayant frôlé l'échec, il n'était plus question que ça se reproduise. Et donc j'ai mené à bien ma barque pour pouvoir éventuellement éviter ce type d'échec. Mais en menant ma barque, je me suis trouvé à explorer des quantités d'endroits où personne n'était allé. Et j'ai donc construit comme ça tout le travail, qui, à la fin de l'ouvrage, d'ailleurs, va être détaillé, puisque on reprendra mon œuvre pour montrer quel a été le fil rouge qui l'a conducté. Mais à partir de là, si vous voulez, bon, ben, la journaliste se dit mais vous êtes qui, vous? Bon.
Oui.
Alors j'ai répondu qui j'étais.
Avez expliqué comment vous avez été éduqué aussi, vous.
Ah ben, c'est-à-dire que c'est elle qui était étonnée de ce que je pouvais lui raconter, puisque, en gros, bon, on n'imagine pas, on ne m'imagine pas quand on m'entend parler ou quand on lit un peu ce que j'écris ou quand on regarde la structure des phrases que j'utilise, la manière dont je peux éventuellement me débrouiller avec les subjonctifs comme si c'était rien du tout, que le français est pour moi une langue étrangère. Et donc, elle était stupéfaite d'apprendre que j'ai appris le français à l'âge de 6 ans. Mais vous parliez quoi avant ? J'ai dit, je parlais une langue improbable qui était le judéo-libyen. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je dis, bon, ben écoutez, il y avait une communauté juive en Libye qui devait y avoir 30 à 40, 30 à 50 000 personnes qui avaient fabriqué son idiome. Ben c'était la langue, j'y peux rien, moi je suis né là-dedans, ce que vous voulez que j'y fasse? Tout le monde ne peut pas parler russe en naissant. Donc, c'était pas très... Bah, j'ai appris, voilà, c'est une langue comme une autre. Et donc, d'un seul coup, la mystification était telle qu'on m'a demandé, donc, au fur et à mesure, ce qui s'est passé. Et j'ai accepté de donner un certain nombre de détails de mon parcours, c'est-à-dire que... comment j'en arrive de judéo-libyen au français, ben, je dis, voilà... Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ou du moins, je ne sais pas très exactement comment, mais mon père était français. Il ne parlait pas un mot de français. Mais il était français. Il avait une nationalité, il était français. Voilà. Il a épousé ma mère, qui était une autochtone, qui est devenue française. Et tout ce monde-là, on savait qu'on était français, mais à part le fait qu'on savait qu'on était français, il n'y avait rien de français chez nous. Si, un détail, mon père était invité à l'ambassade de France régulièrement, tous les 14 juillet, il trouvait que c'était aussi important que Kippour. Mais comme je suis né 2 mois après sa mort, il ne m'a jamais fait de confidence de ce côté-là, ça a été des propos rapportés. Et donc la dame s'étonne de cela. Et puis je dis, bah voilà, on a été chassé parce que Mussolini ne supportait plus d'avoir des ressortissants des puissances avec lesquelles il était en guerre. Donc on nous a envoyés vers la France la plus proche. Et la France la plus proche à l'époque, c'était l'Algérie. Et donc nous sommes arrivés en Algérie dans un état calamiteux. C'est-à-dire, on n'avait rien. Hein, on n'avait strictement rien, puisque de toutes les façons, il était interdit de sortir l'argent de Libye. Donc on avait des ustensiles de cuisine pour le quotidien et puis des couvertures pour nous couvrir. Et puis on est arrivé dans un endroit où on nous a accueillis et on nous a donné une cave pour habiter, une cave de 16 mètres carrés dans laquelle nous sommes restés 5 ans à 8. À 8, oui, oui, si, oui. Ma mère à 34 ans a perdu son époux de 36, qui avait 36 ans, mais ils avaient eu ensemble 10 enfants. Donc j'étais moi le dixième. Et je me disais, mon Dieu, si jamais il n'était pas mort, j'aurais eu 15 frères et sœurs après, sans aucun doute. Bref, et dans ce temps-là, elle a également perdu 3 enfants en bas âge, ce qui correspond à peu près à la mortinatalité naturelle. Donc on est, si vous voulez, bon, ben, allez, disons quart monde. Puis quart monde, mais le quart monde en question, il y a de l'éducation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du n'importe quoi, on a un rapport aux autres, etc. etc. Et on l'a d'autant plus souligné que précisément, il est fondamental, non pas de revendiquer des droits, parce qu'aujourd'hui, c'est « Ouais, j'ai le droit, je suis citoyen français comme vous, et après tout !» Là, vaut mieux pas se faire remarquer. Mais si jamais, éventuellement, nous ne supportons pas notre condition, ben, il nous appartient d'en sortir. Donc, si vous voulez, l'effort, la frustration, c'est connu d'emblée, quoi. Alors, évidemment, il y a l'humiliation, il y a le fait que nous sommes maltraités, le fait que, etc., etc. Ben, il faut se tirer d'affaire.
C'est ce que vous avez fait, d'ailleurs.
Voilà. Alors, bon, ben, après, je raconte comment, pour couronner le tout, au moment où nous émergeons, que nous avons depuis 2 ou 3 ans une maison qui n'est pas une cave, eh ben, il y a un tremblement de terre. Il faut tout repartir de zéro, et voilà. Et puis, etc. Mais entre-temps, moi, j'étais allé à l'école, au collège, au lycée, puis... Et puis comme j'avais probablement une caractéristique qui était d'ailleurs celle de l'ensemble de la famille, enfants et mères compris, et peut-être le père aussi, nous étions tous des hypermnésiques, c'est-à-dire avec des mémoires phénoménales, et probablement aussi, mais c'est une catégorie à laquelle je suis arrivé extrêmement tard à l'intérieur même de ma propre réflexion, et qui est une forme de malheur, c'est-à-dire nous étions tous sans aucun doute des hyperdoués. Vous savez, les surdoués. Et le surdon n'est pas du tout un cadeau. Parce que le surdon, ça vous donne une sensibilité d'écorcher et ça vous donne une retentivité extrêmement grande et que les faits vous affectent infiniment plus qu'ils ne pourraient le faire. Et se construire quand on est surdoué, c'est une entreprise extrêmement difficile. Sans compter que le surdoué a un défaut majeur, c'est qu'il est naïf. Qu'il ne se méfie pas. C'est quelqu'un qui spontanément est porté à confier aux autres et à se situer dans une forme de dépendance des autres qu'il estime toujours supérieure à lui. C'est-à-dire qu'elle a aussi, si vous voulez, une caractéristique qui est une estime de soi extrêmement basse.
Donc théoriquement, vous étiez mal parti.
On était mal parti. Théoriquement, tout le monde était mal parti, moi y compris.
Mais vous aussi.
Non, j'ai quand même eu un bénéfice par rapport aux autres, c'est que comme j'étais le dernier, j'étais absolument chéri, choyé, adoré. C'est-à-dire que si je dis, je peux parler des choses de manière objective en les décrivant comme je le fais, mais sur le plan subjectif, c'était fabuleux. C'était magnifique, c'était extraordinaire, c'était ce que je souhaite à chacun, c'est-à-dire une forme de tendresse et de compréhension immédiate qui permettait d'ailleurs de façon extraordinaire de non seulement de supporter les limites et la frustration, mais même de la trouver, d'y adhérer en disant ben c'est comme ça. C'est-à-dire que l'ordre, au sens ordinal du terme, c'était quelque chose qui était admis. L'aîné commandait à tous les autres, le deuxième commandait à tout le monde sauf à l'aîné, le troisième à tout le monde sauf aux deux autres. Moi, j'étais vous, le dernier, tout le monde me commandait, je commandais personne. Voilà.
Mais votre fratrie s'est beaucoup investie pour vous.
Pardon ?
Votre fratrie s'est beaucoup investie
beaucoup,
pour
oui,
vous.
Oui, absolument. Au moment du tremblement de terre, j'avais proposé à mes frères, je rentrais en première, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, j'arrête l'école et puis je me mets au travail aussi pour reconstruire avec vous. Et ils m'ont dit, ah non, 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 il y a déjà, nous étions trois garçons, donc, au départ, en arrivant, on était quatre garçons et trois filles, puis il y a eu un garçon qui est décédé, noyé, là encore une fois pour dire les choses, avant le tremblement de terre, et ils m'ont dit, non, 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 il y a un artisan et un commerçant, il faut qu'il y ait un intellectuel, voilà. Voilà, ça fait partie des projets, vous voyez, c'est-à-dire, quand on dit, il faut que, on ouvre l'avenir. On dit comme ça du projet. On laisse. Ça fait partie aussi, si vous voulez, de ces éléments qui entrent en jeu dans l'éducation, c'est-à-dire introduire l'enfant. Quand on éduque un enfant, on l'introduit aux catégories du temps. C'est-à-dire, on lui fait sentir précisément que le temps se déploie en passé, présent, futur, que les trois sont reliés et qu'ils sont interdépendants les uns des autres. Et donc là, ça fait partie des choses aussi, des cadeaux que j'ai reçus.
Donc vous avez appris finalement votre futur métier dans la vie même, tout de suite, très vite.
C'est un peu vite parce que mon futur métier... j'avais une vague idée de mon futur métier dans la mesure où, comme tout un chacun, j'ai eu affaire à des médecins. J'avais une mère médecin avec une médecine très particulière. Je raconte comme ça qu'un rhume, ça durait 24 heures. Je crois qu'on allait chercher au fond de nous-mêmes toutes les ressources que nous pouvions mettre dans la balance au niveau immunologique pour vite arrêter ce rhume, parce que c'était insupportable, c'était abominable, c'était une torture. Quand on était enrhumé, on tremblait de peur, parce que le traitement auquel on était soumis, c'était la tête sur un canon. Il y avait le canon... et une grande serviette comme ça, et elle jetait un morceau ou une cuillère de sucre dedans. Alors ça fait du caramel, vous savez, et respire par le nez. Et je traduis ça en disant, le message qu'elle nous envoyait tout le temps dans la médecine qu'elle faisait de nous, c'était en gros, tu vas vivre, sinon je te tue, quoi. Ça fait partie, si vous voulez, de cette sorte de violence de la vie. Elle excellait à faire des tas de choses. Elle avait, vous savez, en Afrique du Nord, on était tous un paludé. Et donc, pendant les crises de paludisme, c'était elle qui nous piquait les fesses pour guérir, parce que on lui avait appris à faire ça, donc elle savait le faire et le faisait. Et puis surtout, un médecin, ça coûtait de l'argent. Il n'y avait pas la sécurité sociale à l'époque, donc on n'avait pas les moyens. Et donc elle se débrouillait avec les moyens du bord. Et il faut replacer ça à cette époque, c'est-à-dire qu'une bronchite ou une infection pulmonaire, c'était la porte ouverte à la mort. Hein. Je veux dire qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien de tout ça. Donc, si vous voulez, il était fondamental que... D'ailleurs, elle avait payé le prix, puisque trois de ses enfants étaient morts en bas âge, de ce côté-là. Donc, voilà. Mais quand vous me dites « j'ai appris mon futur métier », non, j'ai appris mon métier. J'ai appris ma stature d'homme, voilà, d'être humain, là. Mais je ne suis pas parti dans la vie en voulant être médecin. Je n'avais pas la moindre idée du fait qu'un jour je serais médecin. Chose qui m'intéressait, c'était quand je m'interrogeais sur le métier que je pouvais faire, ou j'avais envie de faire, c'était être maître d'école. Voilà. Et je disais, vous me donnez 40 petits-enfants et j'en ferai 40 petits Aldo.
Vous me dites même que vous vouliez être coiffeur.
Non, là, vous allez vous brûler les étapes. Je veux dire que c'était également l'époque bénie où, quand on était bachelier, on avait quand même, jusqu'à la rentrée suivante, qui se passait en novembre, donc on était de juillet à novembre, à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et donc, moi, je ne savais toujours pas quoi faire, parce que c'est certain que j'étais destiné à faire des études supérieures, mais je ne savais pas quoi faire parce que j'étais attiré... par l'enseignement de toutes les façons. Alors, ou bien prof de lettres classiques, ou bien prof de philo, ou bien prof de physique. Voilà, j'avais quantité, et j'en parle un jour à ma mère, parce que je suis dans l'hésitation, et je lui dis que je ne sais pas quoi faire. Et elle me répond, on est en juillet 56, la guerre d'Algérie a commencé en novembre 54, à l'époque on ne parlait pas de guerre, on parlait de pacification, on parlait d'insurrection. Et donc, elle me dit, tu sais, le pays est en guerre, et cette guerre se terminera un jour. Mais nous ne saurons pas où nous allons finir notre vie. Peut-être que nous irons en France, peut-être que nous irons en Israël, peut-être que nous irons en Amérique, peut-être que... Tu sais, quand on était en Libye, on ne savait pas qu'on serait là un jour. Bon, il faut faire un métier qui s'exerce dans toutes les parties du monde. Et moi, je trouve ça intelligent. Je trouve que vraiment, j'ai une mère pleine de bon sens et qui pense à l'avenir et qui pense positivement. Et je lui dis, et alors, à quel métier penses-tu ? Et elle me dit, coiffeur. Et comme elle me voit un peu étonnée, elle me dit, tu sais, c'est un métier qui nécessite peu d'investissement, qui est propre, et dans le monde entier, on a besoin de se faire couper les cheveux. Et je lui dis, mais ça sert à quoi que j'ai été bachelier pour être coiffeur ? Elle me dit, ben, tu auras de la conversation, et les gens viendront chez toi pour ça. Et j'ai été très attendri, parce que, comme ça, tout ce dialogue se passait dans notre langue de communication, qui était ce fameux judéo-arabe, puisqu'elle n'a jamais parlé français, les morts sans jamais avoir parlé français, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose d'étrange, qui était la synonymie entre le terme de coiffeur et son nom de fille. Vous voyez ? C'est comme si elle s'était appelée coiffeur, vous voyez ? Madame Naouri n'est coiffeur. Et je lui demande, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et elle me dit, ben, coiffeur. Vous voyez ? Mais je trouve ça amusant. Si bien que sur le divan, un jour, je reprends ces éléments-là, c'est tout à la toute fin de mon analyse, et je m'aperçois que je n'ai donc pas été coiffeur, puisque le mot qui dit coiffeur dit le nom de fille de ma mère. Mais en revanche, j'ai fait médecine. Et la première fois que j'ai publié un article dans une revue internationale, cet article portait sur la sensorialité dans l'exercice clinique médical. Et je me suis posé la question de, au fond, tout ce long papier ne parle que de la sensorialité. Comment est-ce que je pourrais dire sensorialité dans ma langue maternelle ? Eh bien, ça se dit coiffeur. Ça prend exactement le nom de fille de ma mère. C'est-à-dire, je n'ai pas été coiffeur, mais je n'ai pas fait ce qu'elle voulait. J'ai fait ce qu'elle voulait. Voilà, c'est comme ça qu'on voit, qu'on s'aperçoit, si vous voulez, de la façon dont les injonctions maternelles destinées aux enfants n'ont pas besoin d'être toujours formulées pour pouvoir fonctionner de façon parfaite et amener les enfants précisément à prendre les directions dans lesquelles les choses se font. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans la narration de tous ces éléments-là, D'abord, c'est d'amener chacun à simplement rentrer dans le récit d'une aventure de vie qui est, après tout, l'aventure de chacun. Je veux dire que moi, je raconte la mienne, mais chacune des personnes qui est ici pourrait raconter la sienne. Et ce qui est c'est extrêmement important de savoir comme ça que nous avons, nous tous, une histoire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce que j'ai montré à l'intérieur de mon travail clinique, c'est qu'un enfant, c'est ça. C'est-à-dire, il est là comme un chaînon d'histoire. Mais l'histoire dont il est le chaînon, si vous voulez, et dont il a hérité dès sa naissance, il ne l'a pas choisi. Mais il lui est fait ordre de la mettre à exécution. Ce qui serait pour lui terrifiant si précisément les choses n'étaient pas allégées par le fait que, étant la confluence de deux histoires, en définitive, chacune des histoires va intervenir sur la violence de l'autre et l'atténuer. Et qu'il va y avoir là quelque chose qui est justement le destin humain en ce qu'il a de à la fois contraignant et supportable. Donc, bon, Après tout, on aime bien. Je veux dire que ça fait partie des choses que
vous n'avez pas eu l'histoire de votre père. Oui. C'est votre mère qui vous en a parlé, mais il n'a pas pu peser sur vous puisqu'il était, oui, absent.
Oui, parce mais que là, vous dites, c'est la confiance. Je salue votre naïveté. Parce que vous avez l'impression que quand un père est présent, c'est lui qui raconte son histoire Tintin. Il peut la raconter comme il veut. Elle n'est jamais entendue que dans la mesure où elle est transmise à l'enfant par la mère. Le canal maternel, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que si l'histoire du père rencontre un filtre maternel. L'histoire de la mère ne rencontre aucun filtre. Elle rencontre éventuellement une dénonciation, ce qui n'est pas la même chose. Vous oui, comprenez ? Bon, alors, moi, du côté de mon père, je pourrais écrire un livre encore plus important que cela pour raconter l'histoire de mon père, jusque y compris comment il était quand il était petit garçon, comment il était avec ses frères et sœurs. J'ai des détails phénoménaux, j'ai tellement de détails que je ne suis pas certain que mes enfants, que j'ai pourtant saoulés de mon histoire toute ma vie, soient capables de savoir ce que j'étais, comme autant que moi je savais ce qu'était mon père. Mais tout ça, c'était raconté par ma mère. Je veux dire que c'est précisément là où, n'ayant pas eu de père physique présent, j'étais pas le seul, mais mes frères et sœurs l'ont connu présent, mais il avait disparu. Du père, on en avait du matin au soir. C'était l'homme de sa vie. C'était ses 10 enfants, elle en avait rien à foutre. Mais son mec, c'était quelque chose. Vous voyez ? Et on s'aperçoit, si vous voulez, qu'en définitive, en fait, j'ai bénéficié d'une fonction paternelle authentique, bien qu'il fût absent. Et la fonction paternelle, c'est ça. C'est-à-dire que dans la référence que fait à un père, une mère dit à son enfant : je ne suis pas toute puissante. Mais ça, on le sait aussi du côté de la théorie. On le sait de façon théorique. Moi, je l'ai vécu dans la pratique. Donc, ça, voilà.
Et ensuite, enfin, au cours de votre métier, est-ce que vous l'avez justement rencontré ? Vous avez pu vérifier ?
Oui, j'ai pu le vérifier sur le plan clinique. Et justement, la première histoire, celle avec laquelle je rentre en collision dans le premier mois de mon installation comme pédiatre, cette première histoire est une histoire à elle toute seule.
C'est l'histoire parlante. Avec la grand-mère qui se mêle.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a un bébé de 3 mois qui a une chose d'une banalité tellement... Ça va faire pleurer, quoi. Il souffre de 3 fois rien, hein. Moi, je dois me faire une clientèle, j'ai ouvert un cabinet, il faut que ça marche, hein, le téléphone arabe, qu'on dise, vous avez un pédiatre, il est formidable, etc. etc. Alors, j'y vais tranquille. Hein. J'étais pas très glorieux, mais... Non, mais c'est amusant parce que il faut replacer les choses dans leur contexte. Ce bébé, c'était un bébé qui avait de la diarrhée. J'avais, par exemple, sur l'ensemble de mes confrères médecins du quartier, j'avais un avantage énorme en tant que pédiatre pour pouvoir soigner la diarrhée. C'est que moi, je savais fabriquer la soupe de carottes. La soupe de carottes, c'était le très grand traitement de la diarrhée de l'époque, sauf qu'il n'y avait que les pédiatres qui savaient l'utiliser, ou en tout cas la prescrire. Et il fallait voir comment on écrivait ça, hein. 500 grammes de carottes non épluchées, mais brossées sous, etc., etc., etc. Bon, depuis, on sait que ça n'a rien à aucune valeur, mais enfin... C'est... Donc, si vous voulez, j'y vais en me disant la soupe de carottes. Et puis, Tintin, ça marche pas. Je suis rappelé le lendemain parce que le gamin est toujours aussi mal. Donc, j'ajoute un petit médicament. Et puis, je suis rappelé encore le lendemain. Je me dirais, oh là là, ça va me faire une mauvaise réputation, ça. Alors évidemment, ça me rapporte à chaque fois le prix d'une visite, c'est toujours intéressant, puisque je m'installe et que j'ai pas le rond. Puis le quatrième jour, c'est encore la même chose. Donc je prescris une analyse de sel, et puis je donne un antibiotique oral en me disant, on sait jamais s'il y a un germe, etc. Mais c'est pas glorieux, je suis très très gêné. Et quand le soir, à 10h du soir, le papa me téléphone, c'était toujours le papa qui m'appelait. Et qui me dit, il faut venir, Parce que chaque fois, il me dit, il faut venir, ça ne va pas. C'est comme ça, son message. Je lui dis, écoutez, au point où on en est, il vaut mieux emmener votre enfant à l'hôpital, on va le mettre sous perfusion, laisser son tube digestif au repos, et les choses iront mieux. Il ne se le fait pas dire deux fois, il y va. Et puis, le lendemain, à 1h, il me dit, l'hôpital m'a rappelé, mon petit bébé n'a pas eu de sel du tout, et on me demande de venir le chercher. Ben, très bien. Et à 4h de l'après-midi, il me rappelle en me disant, ça recommence. Je ne comprends plus rien. Moi, non seulement je ne comprends plus rien, mais je suis perdu. Je dirais, je n'ai plus aucune espèce de repère. On a tout fait, mais il n'y a rien à... Et c'est seulement à ce moment-là que je me rends compte que... Bon... Évidemment, je suis en danger. Je viens de m'installer un échec sur quelque chose d'aussi simple que ça. Ça y est, ça vous grille quelqu'un. Hein. Vous rendez compte, quatre fois il est allé. La honte, mais la honte. Bon, et l'échec, et l'angoisse. Puis je suis un gamin, je veux dire qu'aujourd'hui j'en parle comme ça, c'est bien beau. Mais j'avais quoi? J'avais 28 ans, j'étais un petit adolescent, un à peine adulte, hein. Un adolescent qui vient de fermer. Bon. J'y vais et d'un seul coup, je me libère. Je me libère. Qu'est-ce que je dis que je me libère? Je m'époussette de tout ce que j'ai appris et je me mets à être sensible à des choses qui, normalement, ne rentrent pas dans le champ de ce que je dois savoir. Parce que un bébé, ça peut avoir de la diarrhée. On se fout éperdument qu'il soit dans un lit à barreaux extrêmement cher. Je sais que le lit à barreaux, il est très cher puisque je n'ai pas pu me le payer pour mes gosses. Donc, ça ne rentre pas dans. Bon. Et puis, un médecin, ça n'a pas à dire qu'est-ce qu'il est laid, le chignon en galette de cette madame qui est en train de défaire son bébé. Pourquoi est-ce qu'elle s'est fou? Elle s'est tellement enlaidie. Et puis le même chignon en galette existe sur le crâne de la mère, de la dame qui est de l'autre côté, qui est tout le temps là, à chaque consultation. Et puis le monsieur, il passe, il va, il revient, avec les mains au fond des poches. Il ne dit pas un mot. Et puis il y a toujours que la même phrase que la grand-mère me répète, c'est la cinquième fois que j'entends, et c'est une phrase qui ne veut rien dire. Mais si une phrase ne veut rien dire, pourquoi la répéter cinq fois? Alors je l'entends pour la cinquième fois et elle continue toujours de ne rien dire. Puisque cette grand-mère me dit, c'est normal docteur, c'est leur premier enfant, c'est un garçon, il a 3 mois, il a de la diarrhée. Mais je défie quiconque de pouvoir me donner un sens à une phrase comme celle-là. Mais si jamais elle l'a dit et qu'elle la répète... C'est que manifestement, elle insiste. Et si elle insiste, elle veut que ce soit entendu. Mais si elle doit être entendue, par qui doit-elle être entendue? Et à qui s'adresse-t-elle? Ben, au médecin que je suis, puisque c'est moi qu'on appelle et que c'est à moi qu'elle dit ce genre de choses. Et alors là, comme je ne comprends plus rien du tout et que je n'ai plus aucun moyen, je lui dis « Et alors, madame ?» Elle se précipite vers moi avec un sourire jusqu'aux oreilles, les yeux brillants derrière ses lunettes de myope, et elle me dit, vous me voyez moi docteur, moi je suis la deuxième de ma mère, avant moi elle a eu un garçon, à 3 mois il a diarrhée, il est mort, vous voyez ma fille c'est ma deuxième, avant elle j'ai eu un garçon, à 3 mois il a diarrhée, il est mort, c'est normal docteur, c'est leur premier, c'est un garçon, il a 3 mois, il a diarrhée, il va mourir. Et c'est là, si vous voulez, où je découvre que les mots, c'est terrible. Les mots TS, c'est encore plus terrible que les mots AUX. Et qu'il faut pouvoir éventuellement se débrouiller avec. Et toute la suite de ma carrière de pédiatre va partir de là. Vous voyez? Donc, bon, le reste n'est qu'un développement. Un développement, un affinage, une recherche de rigueur plus grande, une recherche de formalisation, une recherche d'éléments qui font que ben, je fais un métier extrêmement intéressant, je rencontre des familles, je travaille avec une dimension différente, je m'instruis de tous les côtés, voilà.
Mais c'est là que ça s'est déclenché.
C'est absolument. C'est là, la datation, elle est là. Je veux dire que c'est vraiment de là que les choses sont parties. Et que les choses sont parties avec... C'est probablement l'histoire illustrative la plus simple qui soit, mais enfin, je veux dire, des histoires, l'ensemble de mes ouvrages, je ne sais pas moi, mais si on regarde ce que j'ai publié comme cas clinique, il doit y en avoir 150 ou 200, j'en sais rien, mais enfin, je passe toujours par le cas clinique, parce qu'une histoire clinique, ça enseigne plus que tous les discours théoriques, puisque chacun peut éventuellement y retrouver de quoi alimenter sa propre réflexion.
Et donc, à partir de là, vous allez préférer... Enfin, vous allez vous diriger.
Mais à partir de là, je me suis dit, on m'a enseigné un métier, mais ce n'est pas celui que je vais exercer. Le métier que je vais exercer, on ne me l'a jamais enseigné. Il va falloir que... Parce que le métier qu'on m'a enseigné, c'est passionnant, c'est prodigieux. Je veux dire que moi, je garde des souvenirs extraordinaires, une émotion qui revient tout à fait avec la même force quand je me souviens de mes nuits de garde à l'hôpital et que je voyais arriver des gamins, si on ne faisait rien, ils étaient morts une heure après. Et puis qu'on se précipitait, qu'on se bagarrait, qu'on se disputait, qu'on allait passer la nuit, aller revoir 5-6 fois, changer les... C'est prodigieux, c'est très 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 fort. C'est le savoir qu'on maîtrise et a son utilité immédiate. Vous ouvrez un cabinet de pédiatre de ville, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez des gens arriver avec on amène un enfant, si vous voulez, pour... Mais l'enfant, c'est un prétexte. Il va bien, lui. Il a rien du tout. Et puis, c'est pas lui. Alors, lui, on lui demande pas son avis s'il va venir chez le docteur Naouri ou pas. C'est sa mère qui va décider de revenir ou pas. Et c'est son père, sa mère. Et donc, mon client, c'est pas le gamin, comme à l'hôpital, ce sont ses parents. Mais si ses parents viennent et qu'ils occupent le devant de la scène, de deux choses l'une, ou je les ignore. Et je fais ce que je faisais à l'hôpital, et à ce moment-là, c'est pas sûr du tout qu'ils soient... Ou bien alors, je m'intéresse à eux. Mais si je m'intéresse à eux, je découvre d'un seul coup que ce qu'ils font, c'est justement dans ce chaînon enfant, ils vont projeter tout ce qui est irrésolu, tout ce qui a été irrésolu dans leur vie depuis leur propre enfance. Et nous allons comme ça, si vous voulez, nous apercevoir que... On va parler de l'enfant, mais c'est d'autre chose qu'on parle. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une sorte de déplacement. Il y a une très belle blague que j'aime beaucoup pour expliquer ce que c'est qu'un déplacement. C'est l'histoire de cet homme qui est en train de chercher quelque chose à la lumière d'un réverbère. De la nuit sort un autre homme qui lui dit « Vous cherchez quelque chose ?» Il dit « Oui, ma montre. » Il se met à chercher avec lui. Et au bout d'un moment, il lui dit « Vous l'avez faite tomber. Oui, je l'ai faite tomber. Mais quand une montre tombe par terre, ça fait du bruit. » Il dit, oui, ça a fait du bruit. Et alors, vous pouvez savoir à quel endroit ça a fait du bruit. Où est-ce que vous avez entendu le bruit? Il dit, je le sais, oui. Et c'est où? Il dit, c'est là-bas au fond. Il dit, mais attendez, je ne comprends pas. C'est là-bas au fond, il dit, vous venez chercher ici. Il dit, oui, mais ici, il y a de la lumière. Vous voyez, alors donc, si vous voulez, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une transmission. C'est-à-dire que, eh bien, le problème que j'avais dans ma toute petite enfance et que je n'ai pas réussi, c'est une patate chaude, je la file à mon gamin et mon gamin, il va l'exprimer à sa façon. Eh bien, moi, le pédiatre, je me dis, on va peut-être s'intéresser à la patate chaude que ce gamin risque de recevoir et je vais donc travailler avec ce qu'il en est de l'enfance des parents. Je suis un pédiatre qui ne s'est jamais intéressé aux enfants qu'on lui amenait, mais qui s'est toujours intéressé aux enfants qu'ont été les parents qui lui amenaient des enfants. Et c'est comme ça, si vous voulez, que ce travail s'est produit. Mais pour faire ce type de métier, ce que j'ai appris à l'hôpital n'était pas suffisant. Donc il a fallu que j'aille me former, c'est-à-dire que j'aille à la fac faire d'autres choses, que j'aille sur un divan d'analyste, que j'aille que je lise des bibliothèques entières, etc., etc. Voilà, et c'est comme ça que les choses ont avancé. Et à ce moment-là, si vous voulez, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je laisserai seulement les patients qui viennent fréquenter mon cabinet bénéficier d'un certain nombre de conclusions que j'ai tiré de ma pratique et qui ont intéressé les parents qui viennent me voir, pourquoi ne pas diffuser ça dans le public? Et le jour où je me suis rendu compte qu'en définitive, toutes les fois qu'on introduisait le discours du père à l'intérieur d'une famille, les enfants d'un seul coup se mettaient à aller beaucoup mieux, aussi bien du côté psy que du côté de la maladie. Je veux dire qu'on m'amène un gamin en train d'étouffer de son asthme, qui reçoit toutes les... une quantité phénoménale de traitements qui vont jusqu'au bout, etc., etc. Alors on vient me voir parce que je suis docteur, je suis quand même docteur, vous savez, je suis quand même docteur. Hein. Bon, alors je sais ce que c'est que la ventoline, que les corticoïdes, etc., etc., comment on traite un asthme. Et puis en regardant un petit peu ce qu'il en est de ce gamin, et à un moment, je dis que le traitement est parfait, on va simplement y ajouter un ingrédient, un tout petit ingrédient. Et qu'est-ce que c'est comme ingrédient? On attend que je fasse une ordonnance pour le pharmacien. Et je dis, voilà, son père va enregistrer sur cassette des histoires qu'il va raconter. Et on va acheter à ce petit garçon un lecteur de cassette. Et on lui donnera ça le soir quand il va s'endormir. L'asthme a disparu. C'est pas, ça n'est pas du tout de la sorcellerie, c'est pas de la pensée magique, ça n'est pas, etc., etc. Je veux dire qu'on peut démonter tout cela et on a véritablement une vérification point par point de ce qui a pu se produire. Alors, bah, quand justement, je me suis aperçu quand même que de temps en temps, dès lors qu'on introduisait le père, on avait des changements monumentaux, je me suis dit, bah, il faut le dire. Donc j'ai écrit ce livre qui s'appelait « Une place pour le père », qui a été détesté par la maison d'édition à qui je l'ai donné.
Qu'il a très mal vendu, je crois.
Enfin, il a été remarquablement vendu. Il continue de se vendre.
Mal promu.
Enfin, il n'a pas seulement été mal promu. L'attaché de presse est venu me voir en me disant je déteste votre livre. Je vais utiliser mon carnet d'adresse, non pas du tout pour le promouvoir, mais pour dissuader quiconque d'en parler. Vous voyez, on ne peut plus accéder. Bon, et d'ailleurs, le PDG des éditions, on était 4 auteurs à signer nos exemplaires de presse, au motif que c'est comme ça que ça se fait. Il est descendu, il a serré la main aux 3 autres, il est passé à côté de moi, je n'existais pas. Bon, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu. Bon, peu importe. Mais enfin, en définitive, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que je venais dire que quand même, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre que la maman. Au moment où c'était en 85, vous me direz c'était déjà très longtemps après, mais c'était presque 17 ans après 1968, où 68, on a dit il est interdit d'interdire, c'est-à-dire qu'on ne veut que maman, tout de suite, n'est-ce pas? Et puis jouir sans entrave. On ne veut que maman, que la source de plaisir, et le plaisir, c'est ce que. Et je venais dire, ben non, il y a aussi un tiers. Non, pas question. Donc on déteste, et ça va. Ça va être le début d'une série d'ouvrages qui vont tous être autour de non seulement de ce personnage, mais de ce qui gravite autour de cela, avec à la fois son histoire, mais également se demander mais pourquoi est-ce qu'il a tellement de difficultés à pouvoir occuper sa place. D'accord ? Et on s'aperçoit que bah, très souvent, la maman des enfants... Elle serait bien prête à lui donner une place. Mais c'est difficile pour elle. C'est très difficile pour elle, parce que si jamais elle lui donne une place, elle rejoue sa propre histoire et le malaise qu'elle a avec sa mère est tellement grave qu'il faut que, donc après, donc, vienne un livre qui s'appelle « Les filles et leur mère ». Après, je vais m'occuper de tas de choses, oui. D'éducation, de belle-mère, de beau-père. Oui. Voilà.
Bon, dans ce bouquin, et je crois que... Les personnes qui sont venues aussi ici, c'est parce qu'ils connaissent votre réputation, oui. Ils connaissent vos prises de position. Oui. Donc, vous parlez aussi beaucoup du père. Oui. Et je pense que ça les intéresserait de savoir. Moi, je trouve que c'est intéressant de vous dites que le rôle du pourquoi il y a actuellement tant de problèmes, c'est que le père n'est plus ce qu'il était.
Le tiers, oui.
Voilà, il est le chef de la horde primitive.
Non, vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Vous allez, excusez-moi, non, non, moi aussi je vais aller très vite. Moi aussi je vais aller très vite, mais je vais le faire de façon relativement assez claire pour que ce soit édifiant. Je parlais tout à l'heure de 8 millions d'années d'âge de notre espèce. 8 millions d'années, on ne peut pas réfléchir, c'est trop dur. Moi personnellement, je n'y arrive pas. Alors, pour pouvoir réfléchir à tout ça, j'ai réduit 8 millions à 24 heures. Vous voyez, j'ai converti 8 millions en 24 heures. Dans ces 24 heures, notre ère chrétienne occupe les 22 dernières secondes. Mais ça vous donne une échelle. D'accord ? Bon. Eh bien, pendant 23 heures sur 24, il n'y a eu que de la mère. Le père n'a jamais existé. C'était un géniteur. Si vous voulez, pendant 23 heures sur 24, les mères mettaient au monde des enfants avec du sperme qui n'était pas en paillettes, mais ça aurait pu être tout comme. C'est-à-dire que le mec venait tirer son cou et se tirer. Et les mères élevaient leurs enfants. Alors quand vous pensez que pendant 23 heures sur 24, elles ont élevé leurs enfants seules, et qu'on leur demande aujourd'hui, dans les 22 dernières secondes, mais qu'est-ce que je dis, dans la dernière seconde, d'essayer de faire de la place à un tiers, c'est terrible. Parce que leur trip, c'est... Il est à moi, quoi. Hein ? Bon. Ben, à la 23e heure, on met en place quelque chose qui va changer la physionomie de l'évolution, ça n'est pas encore du père. Et si vous voulez, le père lui-même va apparaître dans les 4 dernières minutes des 24 heures, c'est-à-dire au moment où vont se fabriquer les codes de loi. Et ces codes de loi vont donner au père un pouvoir légal. Ce pouvoir légal... Ça s'appelait être chef de famille. Et le pouvoir légal avait comme mérite de s'opposer à la puissance intrinsèque de chaque mère, c'est-à-dire une mère a cette faculté de communication très grande avec son enfant, il la devine, ses voeux inconscients à elle, il les exécute, etc., etc., etc. C'est elle qui introduit ou qui n'introduit pas le père, qui peut introduire le père pendant 5 ans et décider qu'il n'est plus le père, elle le jette, et le père ne l'est plus. Voilà, il va rester géniteur, il va rester le père de l'histoire, celui qui a donné le nom, mais il n'aura plus la fonction. Bon, eh bien, la puissance intrinsèque de la mère appartient à chaque mère, et contre cette puissance intrinsèque, on va mettre en place un brin de pouvoir du côté du père. Ça donne quoi? Ça donne une échelle double. Et vous savez qu'une échelle double, chaque échelle appuie sur l'autre. Chaque échelle cherche à faire tomber l'autre, mais elle tient le coup. Si vous voulez, on peut grimper dessus. Ça a fonctionné comme ça. Et à partir du moment où on a décidé qu'il n'était plus question de cela, et qu'en définitive, le père, on n'en avait plus rien à faire, et ça date exactement de 1972, eh bien, à partir de ce moment-là, on a eu une seule échelle, et l'autre, elle était par terre, vous voyez. Et cette échelle-là tenait comme elle pouvait, en tout cas, on disait, t'as qu'à la coincer contre un arbre, t'as la coincer contre un mur, mais c'est pas la même chose, parce qu'elle n'a pas le même usage. Donc,
oui, mais 72,
vous voyez. Bon, et ce qui s'est passé, c'est que cette diffusion des choses a fait que l'idée introduite par le père, qui est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je te retire le 100% de la mère parce que je la prends comme femme, je mets une limite à ta toute puissance, l'idée même de limite va disparaître. Et l'idée de cette limite disparaissant, le terme même de limite devient quelque chose d'indécent. C'est-à-dire qu'on est là dans la liberté totale et l'absence de limite. Et l'absence de limite va profiter d'une façon considérable à la finance internationale. Et la finance internationale va produire ses effets au point justement de tout confisquer et que les gamins que sont les populations des différents pays n'ont qu'à crever. C'est-à-dire on se retrouve dans quelque chose qui ne ressemble pas au père instauré dans les 4 ou 5 dernières minutes des 24 heures, on se trouve, si vous voulez, dans ce qui était le père quand il a commencé au début, à la fin de la 23e heure. C'est-à-dire que c'était celui qui prenait tout, le père de la horde primitive, et qui tuait tout le monde parce qu'il était d'une brutalité, etc. On est en train de régresser. C'est le début d'un retour à la barbarie. Et c'est ça que je dis. Vous voyez ? Et moi, je ne suis pas venu Pardon, je ne suis pas venu dire cela parce que ça m'est passé par la tête. Ça m'a sauté à la gueule, alors que j'étais parti d'une question innocente, et à partir de laquelle je pensais pouvoir beaucoup m'amuser, puisque, ayant passé quelques années de ma vie de pédiatre à raccommoder les couples tous les mois de janvier, à cause des fêtes de fin d'année, je me suis posé la question de savoir pourquoi ça se passait si mal entre les belles-mères et les brus. Alors que ça se passe pas mal entre les beaux-pères et les brus, que ça se passe pas mal entre les beaux-pères et les gendres, mais qu'est-ce qu'elles ont, ces deux bonnes femmes-là, à se jeter dans la gueule des choses de... Bon, c'est intéressant, on part d'une question, et moi je suis parti de cette question, et puis j'ai procédé à une véritable recherche, une recherche de tous les côtés. Et c'est à la fin que cette histoire de la finance m'a sauté à la gueule. Mais elle m'a sauté à la gueule. C'est-à-dire que, en développant mon travail, ben c'est exactement comme s'il faisait un puzzle et que d'un seul coup, alors que j'avais cru voir une forme, je mets la dernière pièce et c'est tout autre chose.
Mais vous le faites partir de 72, c'est-à-dire de l'autorité parentale
conjointe. Oui.
Donc vous, c'est ce que vous expliquez quand même dans votre livre, que tout
oui.
est...
Oui, mais j'explique tellement de choses.
Oui. Donc vous... Ce que vous dites, c'est qu'il y a des lois qui transforment.
Absolument.
Et qui cassent complètement.
Absolument.
Ce qui pourrait être.
Mais la loi de 72 a ceci d'intéressant, si vous voulez, c'est qu'elle n'était pas du tout faite pour installer l'autorité parentale conjointe. C'était pas pour ça. Elle n'était pas non plus faite pour séduire les femmes et avoir les voix des femmes
aux élections.
Aux élections. Elle était faite pour une circonstance particulière. On a fait quoi ? On a commencé à réformer le droit familial en laissant au père, à partir de 1970, et on a enlevé au père toutes ses prérogatives de chef de famille en lui laissant un seul domaine dans lequel il était chef de famille. C'est-à-dire qu'on a dit, bon ben, tant qu'à faire, puisqu'il s'agit de deux échelles, d'accord ? Ben, on va supprimer l'échelle, papa, et on va mettre une tige de fer unique qui soutienne ça. Vous voyez ? Ça peut se faire, hein ? On peut très bien imaginer un système comme ça. Donc, le papa, on va pas lui laisser les gamins monter à l'échelle du côté. On va les faire monter tous de ce côté-là. Et ici, on va permettre à cette échelle de tenir le coup. Donc, on a laissé au père une prérogative. Il était chef de famille pour la résidence de la famille. Et puis là-dessus, Giscard d'Estaing, pour résorber le chômage, il était ministre des Finances de Pompidou, a décidé qu'il renverrait volontiers tous les ouvriers algériens en Algérie, moyennant une prime de 40 000 francs. Donc ça a été adopté. On a commencé à faire les dossiers. On s'est rendu compte qu'il y avait 5 800 enfants de mère française et de père algérien qui, du fait même de cette loi, devaient aller avec leur père, puisqu'il était chef de famille, et qu'il n'y avait pas à discuter. Donc pour pouvoir discuter les cas un à un, ben on a supprimé ce dispositif. Donc vous voyez, c'est un effet collatéral. Et de ce côté-là, si vous voulez, nous sommes très impressionnés par la machine politique, par la manière dont les choses se passent, par la manière dont les choses se pensent, même si éventuellement on a ce pouvoir qu'est la presse, qui est capable de dénoncer, etc. etc. Mais il faut voir un peu le n'importe quoi qui se fait dans ces domaines. Il est considérable. Moi, je me souviens avoir été invité en 89, comme expert par le gouvernement pour juger si la France devait ou non ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc j'y suis allé après beaucoup d'hésitations et je me suis trouvé avec 14 autres experts qui chacun était expert dans son domaine. Moi, j'étais pédiatre. D'autres étaient légistes, il y avait des anthropologues, il y avait une quantité de spécialistes de l'enfance. On était 15, et une particularité, c'est qu'aucun des 15 ne connaissait les 14 autres. C'était donc pas de complicité, et on a passé au vote. Est-ce que la France doit ou non ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant ? Eh bien, il a été décidé que non. On a été 15 sur 15 à dire surtout pas. Alors on nous a fait venir devant M. Rocard et nous avons plaidé chacun dans son registre le fait qu'il ne fallait pas. Voilà, et nous avons pensé avoir fait notre devoir et que le Premier ministre allait écouter les 15 experts convoqués par le gouvernement. Il a pris la parole en nous félicitant, nous remerciant, etc., etc. Et il nous a expliqué que la convention était ratifiée depuis 6 mois.
Bon, voilà. Mais ce qui est étonnant dans ce livre-là, hein, c'est que, bien que vous reconnaissiez que la politique, évidemment, impose un cadre, vous refusez de parler du problème, par exemple, de la... Du mariage gay et de ce que ça entraînera comme problème pour les familles.
Bien sûr que je refuse. Pourquoi voulez-vous que j'use ma salive pour quelque chose qui est joué d'avance? À quoi ça sert? Mais c'est pas la peine de se faire d'illusions. Il n'est pas nécessaire de se faire des illusions. Quand on sait par avance qu'on a une chambre et un Sénat qui...
Oui, les
pressions se font. Mais pourquoi voulez-vous perdre votre temps? Les carottes sont cuites. Un point, c'est tout. Et vous regardez même, il suffit de revenir à un vieux livre, très vieux livre. Vous savez, de cet excellent auteur dont le nom m'échappe, mais que vous connaissez sans aucun doute, François de Closé. Il avait fait un livre extraordinaire qui s'appelait Toujours plus.
Oui, je m'en rappelle.
D'accord? Mais regardez ce qui se passe du côté aujourd'hui de l'UMP. On ne sait plus s'il faudra, si jamais on revient au pouvoir, est-ce qu'on abroge, est-ce qu'on change, etc. Écoutez, tant qu'on reste, si vous voulez, dans un système, et là, mon Dieu, Montesquieu, ça fait tellement longtemps qu'il se roule dans sa tombe qu'il ne doit plus exister, le malheureux, il a dû s'user. Mais tant qu'on reste dans un système dans lequel éventuellement... Le pouvoir politique est aux mains de démagogues qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Voilà, c'est tout, c'est pas la peine.
Merci beaucoup.